Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse
exclusivement de la musique country
avec Charles Lemoine
et Thomas Révoy.
Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de LYFM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical, journaliste et photographe. Salut Charles.
Salut Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le support physique que dans le dématérialisé. Aujourd'hui, ça va être une émission spéciale Seijun Suzuki suite à la rétrospective et à la ressortie en master 4K et parfois 2K aussi de 9 de ses œuvres. Donc voilà, un très grand cinéaste japonais, particulièrement important dans les années 60, sur lequel nous reviendrons juste après le générique. Côté musique, vous découvrirez Falling Rain de Ling Hui, Popcorn et Banjo, la 20e, c'est sur LYFM 93.1 et c'est parti.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Grâce à Carlotta, on a un certain nombre de masters 4K et 2K qui sont disponibles maintenant à Paris, en France d'ailleurs, parce que j'imagine qu'ils vont tourner un peu partout, des films de Seijun Suzuki. Alors, qui est ce monsieur dont on parlait peu ? Eh bien, c'est un réalisateur japonais qui naît en 1923 et qui meurt en 2017, donc 93 ans tout de même, le bonhomme. Et dans les grands moments de sa vie, d'abord il a combattu dans la Deuxième Guerre mondiale à Taïwan et aux Philippines avec l'Empire japonais. Et puis ensuite, il est devenu réalisateur. Alors, Seijun Suzuki, c'est un très grand réalisateur du studio de la Nikkatsu. Il y a plusieurs studios japonais, la Shikoku, la Nikkatsu, la Toei. Et lui, c'est un petit peu le bad boy de la Nikkatsu qui va être très important dans les années 60. Il arrive fin des années 50 dans le studio et il va travailler 10 ans avec eux jusqu'en 1967 et il va réaliser une quarantaine de longs métrages. Donc c'est un réalisateur prolifique, 3 à 4 films par an, plutôt des séries B assez fauchées. Et puis c'est un cinéaste très pop, avec un style visuel très fort, tellement fort et tellement libre dans ce qu'il fait que un certain nombre de ses films vont être incompris par le studio. Et jusqu'à La Marque du Tueur en 1967, qui est un film assez radical en noir et blanc, avec plein d'idées visuelles très fortes, mais que le directeur du studio de la Nikkatsu ne comprendra pas du tout, et donc va décider de virer Seijun Suzuki. Non seulement il va être viré, mais il va être mis au banc même de la profession, puisqu'il va être complètement écarté de tout le système de cinéma des studios japonais pendant une dizaine d'années. Et cela malgré un procès qui va quand même gagner contre la Nikkatsu. À ce moment-là, il y a par exemple Oshima, avec qui il était très proche, qui va le défendre. Et lui d'ailleurs défendra aussi Oshima quand il y aura un procès pour l'Empire des Sens, pour obscénité. Suzuki ira défendre Oshima. Mais bon, tout ça ne suffira pas à l'écarter des bancs de la société et le voilà qui est mis de côté, qui va vivre en réalisant des publicités et qui reviendra ensuite à la réalisation dans les années 80. Mais voilà, le noyau dur de sa filmographie, c'est en gros 63-67. Il va faire un certain nombre de films, Carmen de Kawashi, La Barrière de la Chair, La Marque du Tueur, Histoire d'une prostituée, Élégie de la bagarre, La vie d'un tatoué et Le Vagabond de Tokyo, entre autres. Tous ces films-là sont donc trouvables maintenant en 4K et 2K et s'apprêtent à sortir sans doute prochainement dans des magnifiques ou un magnifique coffret. Voilà, alors, passé cette petite présentation, Monsieur Charles, qui est assis à ma droite et non à ma gauche, comme je le dis dans le générique, vous le savez maintenant, c'est un des secrets de l'émission. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu comment tu as découvert Seijun Suzuki dans ta vie, et puis ce qui t'est un petit peu arrivé en revoyant un certain nombre des films à nouveau disponibles?
Moi, j'ai découvert Suzuki, je pense que c'était en vrai, c'était avec toi, c'était en 2018, quand on a fait un premier voyage aux États-Unis pour Ciné Bazar à l'époque, magazine de cinéma très réputé. Et on avait été invité à la Cinémathèque à l'époque, qui était l'Égyptienne, à Los Angeles, et avant que ce soit racheté par Netflix. Et on a découvert un ou deux films, c'est ça, où je me souviens plus.
Il y en avait deux, mais on en a vu qu'un, j'étais épuisé, moi.
Ah, c'est ça. Et on a vu un film sur la mafia, qui était un des tout premiers qu'il avait fait. Et qui était vraiment très beau visuellement déjà, mais un tout petit peu chiant dans mon souvenir. Mais du coup, j'avais quand même beaucoup aimé le travail au moins plastique de ce réalisateur. Et donc par la suite, je me suis bien sûr renseigné, j'ai commencé à voir certains de ses films. Et là, c'est vrai que pour la petite rétrospective qu'on a fait, j'en ai vu 5 ou 6. Et il y a des choses que j'aime beaucoup, des choses que j'aime un peu moins. Mais je pense que là, dans ceux que j'ai préférés, là, pour le faire un peu simplement, j'ai adoré Carmen de Kawashi, que j'ai vraiment trouvé génial. Et j'ai adoré La Marque du Tueur. Pour moi, c'est vraiment dans toute la rétro, en tout cas sur le 8 ou 9 films que ressortent Carlotta, pour moi, c'est les deux que j'ai vraiment préférés.
Qu'est-ce qui te plaît dans La Marque du Tueur d'abord? Parce que moi aussi, c'est vraiment... Je l'ai vu hier soir et pour le coup, je ne le connaissais pas. Je pensais l'avoir déjà vu et j'ai pris une claque monumentale. Hein. J'ai lancé tard dans la nuit, je n'ai pas décroché de mon écran. C'est quoi ce qui t'attire dans ce film qui est donc, je le rappelle, un film important puisque c'est le film qui va mettre Suzuki au banc de la Société des réalisateurs japonais? Hein.
Alors déjà, je vais peut-être quand même dire un peu de quoi parle ce film. Donc c'est l'histoire d'un tueur à gages qui va rater une mission et va donc se faire poursuivre par un autre tueur à gages qui est entre guillemets meilleur que lui, hein, puisque lui, le personnage principal s'appelle numéro 3, on va dire, un peu comme dans le prisonnier, et le tueur à gages qu'il recherche est numéro 1. Et il va y avoir comme ça toute une course-poursuite, chat-souris, on va dire, mais très foutraque, très bizarre. Et très clairement, la force du film, c'est clairement son montage et aussi sa narration qui est, je dirais, pas complètement décousue, mais par contre... Il y a des espèces d'élan, d'énergie, de poésie, c'est un mélange de plein de choses, c'est assez bizarrement fou. C'est un film qui est bancal, mais qui tient debout. Et ça rend le film très bizarre, mais en même temps assez fascinant à regarder.
Mathieu Macheret dans Le Monde, qui parle, pour parler de Suzuki, de cinéma sophistiqué. Et je suis assez d'accord, je trouve que visuellement, il y a une utilisation des focales qui est merveilleuse. Les courtes focales aussi de Suzuki sont sublimes. Et La Marque du Tueur, il y a un côté papier glacé un peu dans le noir et blanc. C'est très étonnant esthétiquement, c'est très pop art aussi. Hein. Enfin, pop plutôt d'ailleurs, plutôt Le Vagabond de Tokyo qui est pop art un petit peu plus. Mais les cadres, et puis ce qui est très fort dans La Marque du Tueur, je ne sais pas si tu te souviens, il y a un moment où tout d'un coup on bascule dans un film... qui communique avec un film de l'illustration, en fait, enfin, de l'animation pure. Il y a des dessins qui apparaissent sur l'écran, il y a un travail sur la musique, il y a presque un peu de Godard aussi dans le montage. Il y a des cuts très bizarres où tout d'un coup on est dans l'action et ça coupe, on est dans une pièce, autre rythme, autre atmosphère, autre temporalité. Enfin, c'est hyper moderne en fait. Hein. Moi, je n'imagine pas du tout que c'est un film de 67. Et puis, évidemment, je pense que c'est difficile de parler de Seijun Suzuki sans aborder son acteur fétiche qui est le premier rôle de La Marque du Tueur et qui revient comme ça dans sa filmographie dans ses années 60. À partir de Détective Bureau 2-3, en passant par La Jeunesse de la Bête, La Barrière de la Chair et La Marque du Tueur. Et c'est Joe Shishido qui est l'acteur japonais aux joues les plus impressionnantes de l'histoire, même des acteurs du monde. Je pense qu'il s'est fait de la chirurgie esthétique, j'imagine. Il a deux bajoux gonflés extraordinaires, mais un charisme aussi de fou. Et donc c'est tout cet univers-là... qui existe dans le cinéma de Suzuki. Mais c'est vrai que moi, La Marque du Tueur, j'ai été hyper étonné par le rythme aussi. Il n'y a pas de temps mort. Là où parfois, il y a des longueurs, effectivement, parfois, dans le cinéma de Suzuki. Et au milieu de ces longueurs, il y a des explosions de génie, en fait. Hein. Je ne sais pas si tu as vu La Jeunesse de la Bête, aussi, avec Joe Shishido, qui est excellent. Mais pareil, il y a un peu des longueurs. Ça parle fort, c'est bruyant. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je trouve qu'il n'y a pas la même radicalité visuelle aussi qu'il y a dans La Marque du Tueur. Et justement, La Marque du Tueur, pour moi, c'est dépouillé de tout ça, même si il allonge certaines scènes. Tu sais, il y a des scènes où il couche, Joe Shishido couche avec cette femme. C'est extraordinaire. Tout d'un coup, tu as 7-8 minutes de scènes de sexe stylisées. Chaque scène, c'est comme des photographies voilà, où il découvre un peu toutes les pièces de la maison, de l'appartement. Et je trouve ça dingue. Et il y a un autre truc qui me plaît, je sais pas ce que t'en penses, c'est que Suzuki, il l'utilise clairement. Il tourne beaucoup en studio, ça se sent et c'est assumé. Par exemple, dans La Barrière de la Chair, qui se passe dans le Japon d'après-guerre, c'est tout est tourné en studio, ça se voit, mais on lui excuse quelque part. Il y a une espèce de plaisir de cette patine du studio. Et dans La Marque du Tueur, il y a ce grand appartement qui est évidemment un studio, mais on y croit, on accepte le truc, quoi. C'est assez dingue.
Non, c'est sûr que par rapport à tous ces autres films, il pousse les curseurs de sa narration plus loin que les autres, dans le sens où Suzuki, en fait, fait des films, on va dire, de série B. Voilà, c'est pas du tout péjoratif quand je le dis, hein, mais c'est comme il a été employé pour ça, et c'est pour ça qu'il a fait je sais pas combien de films en 10 ans. Mais il va faire ses films de Yakuza, du coup, je sais plus le terme exact, le nom exact pour ce genre de film, mais en gros, à chaque fois, ça va être un Yakuza qui est dans la merde, il va faire ses trucs. C'est en même temps un film policier, c'est un film policier un peu dans les bas-fonds, on va dire, c'est un peu ça, Suzuki. Et là, en fait, il va prendre ce synopsis de base et il va le tordre et l'essorer dans tous les sens. On va voir que dans la Marque du Tueur, il y a beaucoup d'humour, où le mec, il a une passion hyper bizarre pour le riz, où vraiment il a un kink avec le riz, il veut le sentir tout le temps avant de faire l'amour, des trucs comme ça. Enfin, Tu comprends pas trop. C'est on remplace la drogue par le riz, c'est des trucs un peu bizarres comme ça. Parfois on dirait un mauvais vilain James Bond, mais encore une fois, c'est dans un sens très pastiche du terme, et on a l'impression que Suzuki va essayer de détruire un peu le mythe du yakuza, des bas-fonds, du tueur à gages, pour donner quelque chose de peut-être un peu plus excitant qu'il avait l'accoutumé de faire. En tout cas, il s'est dit à ce moment-là, effectivement, j'ai envie de faire du Godard, j'ai envie de faire du James Bond, j'ai envie d'un peu de piller dans tous les sens. Et ça rend le film extrêmement, extrêmement bon et extrêmement jouissif. Et surtout que dans celui-là, par rapport à d'autres films qu'il a fait même avant, c'est un film qui est quand même complètement en noir et blanc. Ce qui change vraiment de certains de ses films qui sont vraiment très criards. Qui sont vraiment très pop, et on sent que Tarantino a pompé sur lui, on sent que plein de réals ont pompé sur lui.
Aussi Jim Jarmusch, qui se reconnaît beaucoup, notamment Ghost Dog, La Voix du Samouraï, dont il dit que c'est inspiré, je crois, de La Marque du Tueur aussi.
Oui, mais ça m'étonne pas, de toute façon. Wong Kar-wai aussi, Park Chan-wook, c'est aussi des gens que j'ai pu effectivement lire en faisant quelques recherches sur ce cinéaste. Et ce noir et blanc, comme tu disais, est vraiment magnifique, et surtout tranche justement, et je trouve ça très malin d'avoir fait ça, là où il aurait pu faire encore une fois un objet pop un peu comme Le Vagabond de Tokyo. Là, il décide justement de reprendre vraiment les codes du film noir un peu, pour justement encore déconstruire.
Et il y a un travail aussi un peu sur le son chez Suzuki, la musique un peu jazzy aussi, qui va le rendre assez proche de la jeunesse japonaise. Mais oui, c'est vrai qu'en voyant La Marque du Tueur, moi, le grand mystère, c'est pourquoi est-ce qu'il a disparu pendant tant d'années. Qu'il était au banc de la société des réalisateurs, etc., c'est une chose, mais comment l'héritage de Suzuki a disparu avant qu'il commence à y avoir des grandes rétrospectives de son œuvre je crois fin des années 90, début 2000. Mais en tout cas, c'est un énorme formaliste. Suzuki, c'est un formaliste, et parfois il faut faire fi du scénario et juste plonger dans les images. En revanche, dans La Marque du Tueur, je trouve qu'il arrive à associer les deux, et c'est pour ça aussi pour moi que c'est son chef-d'œuvre. C'est un très grand film narratif, même s'il est explosé dans sa narration. Il y a une histoire qu'on arrive à capter et des personnages, et en même temps il se libère de la forme et il fait des choses qui sont complètement folles. Et je serais curieux de voir son travail en publicité aussi, parce que qu'est-ce qui devient cette espèce de génie qu'on a du mal à limiter en fait, quand il bascule dans la pub et dans les téléfilms. Mais je crois qu'il a surtout fait de la pub jusqu'aux années 80, et il a continué je pense en 90. Donc ouais, je serais assez curieux de voir ce qu'il fait sur des formats courts potentiellement. Est-ce qu'il est libre et est-ce qu'il fait des dingueries, quoi.
Aligre FM 93.1.
En tout cas, ce qui est intéressant pour moi, La Marque du Tueur, il est en résonance directe avec Le Vagabond de Tokyo, que toi t'aimes pas, et donc j'aimerais bien qu'on parle un peu de ça, parce que c'est un autre film très important de Suzuki, hein, pour le coup c'est un de ses films les plus réputés, et c'est un film qui date de 1963, donc qui est antérieur à La Marque du Tueur, et qui est le film vraiment qui va lui ouvrir les portes vraiment du studio, hein, dans lequel il va trouver sa place un certain temps. C'est un film aussi sur un tueur isolé. Bon, c'est un peu plus complexe, là l'histoire est moins compréhensible que La Marque du Tueur. C'est des grandes sociétés qui essayent de se racheter un immeuble et de s'arnaquer, et il y a des hommes de main qui travaillent pour les uns et pour les autres. Mais au milieu de tout ça, il y a un travail visuel en couleur cette fois-ci qui est extraordinaire. Et donc Le Vagabond de Tokyo, pour moi, il fait vraiment un ping-pong avec La Marque du Tueur dans son esthétique, même s'il y en a un qui est en couleur, l'autre qui est en noir et blanc, un peu comme les deux faces d'une même pièce, n'est-ce pas ? Et c'est un film qui est tellement libre, mais tellement libre à un niveau, vous imaginez même pas, c'est-à-dire que le duel final est un délire total. Je pense que je l'ai vu en salle et j'entendais quelqu'un après dire qu'il y a beaucoup d'humour dans le film, sur les codes aussi de Yakuza, etc. C'est sans doute vrai, mais moi, ce qui m'arrive, c'est que pour moi, c'est un film presque pour les graphistes, où chaque image est équilibrée, chaque cadre pousse encore plus loin ce qu'on aurait imaginé. Et ouais, résultat, je suis assez surpris que t'aies pas apprécié le film, parce qu'il y a, je trouve, des vrais liens avec La Marque du Tueur, même si, effectivement, narrativement, c'est un peu plus brouillon, on s'y perd. Mais je trouve que, pour le coup, la forme pardonne le fond.
Déjà, premièrement, celui-là, comme tous les autres films, la musique est toujours mortelle. Il arrive toujours à trouver des morceaux, soit pop, soit rock, ou même parfois des complaintes japonaises. Mais c'est la musique, et le travail de la musique et le travail du son est toujours merveilleux chez Suzuki. Et dans Le Vagabond de Tokyo, ça ne déroge pas à la règle, puisque c'est même parfois, on a l'impression qu'on tombe dans une comédie musicale, quoi. Ce qui est très déroutant. Donc, sur la forme, je suis complètement d'accord. Le film est magnifique. Pareil, on sent que c'est... De toute façon, dans plusieurs des films, je pense que c'est une remarque qu'on pourra faire, mais ça ressemble un peu à du théâtre japonais, donc soit du kabuki, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment... Il va piocher dans mille et une choses. Ça, c'est très pop, c'est très... Enfin bon. Donc... Le film est très fourre-tout en termes de forme, et c'est super. Vraiment, on sent que c'est un vrai film de plaisir, effectivement. Comme tu disais, je pense que c'est un film effectivement pour les graphistes. Mais après, moi, c'est là où je lâche complètement. C'est effectivement le scénario. Mais alors, de tous les scénarios de Suzuki que j'ai pu... Bon, j'en ai pas vu mille, hein, forcément de Suzuki. Mais alors vraiment, celui-là, on y comprend. Moi, je ne comprends... Enfin, La Marque du Tueur, je trouve que c'est très compréhensible. Hein. C'est très... En vrai, c'est assez linéaire. C'est juste que c'est le montage qui est très perturbant. Là, dans Le Vagabond de Tokyo, c'est vraiment... On ne pige rien, quoi. Mais sans déconner, le mec, il se balade partout. On comprend pas ce qui se passe. Et il y a un moment où, moi, j'avoue, ça a plutôt une tendance à m'agacer que à vraiment... et à me repousser plutôt qu'à rentrer dans le film. Et c'est vraiment dommage, parce que effectivement il y a quand même de très belles trouvailles dedans.
Et tout de suite un petit moment musical, puisque c'est le temps pour ta fameuse rubrique, Charles.
J'ai longtemps hésité, pour à vrai dire, parce qu'à la base, je devais vous parler de Kris Kristofferson et de sa femme Rita Coolidge, et d'un morceau qui s'appelle « From the Bottle to the Bottom ». Mais en fait, je suis tellement obsédé par l'album dont je vais vous parler que j'ai complètement changé d'avis. Dans les émissions précédentes, on a parlé de Johnny Cash, puis des artistes natives, et on a parlé de l'Amérique du Nord, on a parlé du Canada, et pour vraiment boucler la boucle, je voulais vraiment vous présenter un artiste qui me tient vraiment à cœur, et qui est Link Wray. Donc Link Wray, c'est l'un des plus grands guitaristes du XXe siècle, hein, il a des origines Shawnee, il a fait de la guerre de Corée où il va perdre un poumon parce qu'il aura chopé la tuberculose. Et en 58, en fait, il va certainement sortir son morceau le plus connu, qui s'appelle Rumble, qui est un instrumental de guitare que vous avez peut-être entendu dans un Tarantino, dans Pulp Fiction. Et à l'époque, le morceau a été complètement censuré, hein, parce qu'apparemment, ça a incité les jeunes à la violence. Et il faut bien dire que Rumble, dans le slang américain, c'est de la bagarre de rue entre gangs. Mais des années plus tard, on est en 70, et là, en fait, il va enregistrer son album éponyme dans une petite ferme dans le Maryland où il va transformer un poulailler en studio aux trois pistes. Et dans ce poulailler, eh bien, il va sortir un album que je trouve merveilleux. 11 morceaux et 11 chefs-d'œuvre. Où là, si vous écoutez l'album, vous allez voir, c'est vraiment ce que j'ai pu déjà dire dans d'autres émissions, c'est de l'Americana, donc c'est ce mélange de tous les genres qui existent aux États-Unis, hein, donc gospel, blues, country, rock. Et dans ces 11 morceaux, en tout cas, vous allez pouvoir entendre Fire and Brimstone, hein, qui est un rock gospel qui donne envie vraiment enfin, on ferme les yeux, on est possédé, on s'y croirait. Black River Swamp, qui est une ode à la nostalgie et à la douceur, avec une mandoline que je trouve absolument dingue. Mais là, les deux morceaux que je vais vous présenter, c'est Falling Rain et Ice People, qui sont pour moi les morceaux les plus country, mais aussi les plus politiques, on va dire. Falling Rain, hein, c'est un morceau qui en fait va dénoncer un peu ce qui se passait à l'époque, hein, c'est-à-dire ce qui s'est passé à Kent State, c'est ce moment où en fait pendant une manifestation contre la guerre du Vietnam, des jeunes étudiants se sont fait tuer par la garde nationale. C'est un texte très puissant mais aussi très sombre. On sent qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir vis-à-vis de tout ça. Ice People, lui, par contre, est beaucoup plus, on va dire, frontal encore, où là, il va critiquer l'establishment et le racisme ambiant qu'il y a aux États-Unis. Et Ice People, un ICE, comme quoi Link Wray avait vu possiblement juste, hein, et il va parler des hippies qui ont les cheveux longs, ils vont parler des Noirs américains, des natives, de l'homme blanc aussi. Et tout ça pour dire que finalement, en fait, tous ces gens, quoi qu'il arrive, sont pauvres et ne sont là que pour l'amusement de ces Ice People qui les traquent un peu comme des buffles, comme des bisons dans les années 1800. Un texte donc que je trouve moi très fort et très sincère aussi dans sa démarche. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous faire écouter ces morceaux. Bonne écoute.
I hear a sound, it's going through my brain. I hear talk of people, I feel the falling rain. I see a man crying, cause the whole world has let him down. Funny faces of a clown. My mind is like a spring in a clock, it won't unwind. I can't see, I can't think, I can't feel, I'm out of time. I'm up and then I'm down. Start at the beginning again, my friend.
can feel the wind. I can see angry faces in the eyes of men. And don't forget kids stay where kids lay bleeding on the ground. And there's no place on this planet there'll be stabbings and shootings and young men dying all around. And it keeps going through my brain, and I can still hear the sound. I hear talking of people, the whole world has gone insane. The falling rain. All there is left is the falling rain. All there is left. Ice people, they're just made of ice. They don't treat their fellow man very nice. You wear your hair long as Jesus did. They'll crucify you. You're not part of the establishment. For your rights, they'll call you a fool. If you don't go to war, you're not living by the golden rule. Ice people, they're just made of ice. They don't treat the fellow man very nice. The red man lives and dies on the reservation. And the black man just lives anywhere he can. And the poor white man, he doesn't live anywhere.
Et vous êtes sur Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country et qui est en lien évidemment avec Vive le cinéma. Alors, j'aimerais un petit peu revenir sur plus de films de Seijun Suzuki, des films qui sont moins radicaux sur la tenue, sur la continuité dans leur forme, bien qu'ils le sont tous toujours, voilà, contrairement à La Marque du Tueur ou Le Vagabond de Tokyo, où là c'est constant. Suzuki fait d'autres films à teneur aussi un peu sociale, hein, des films sur les conditions des prostituées, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale. Il fait donc La Barrière de la Chair. Est-ce que tu l'as vu, cher Charles? Eh bien, La Barrière de la Chair, je serais assez curieux d'en parler avec toi. J'ai adoré le film, personnellement. J'ai trouvé ça merveilleux. Je l'avais pas vu non plus, parce que j'en avais vu pas mal il y a quelques années, mais je m'étais un peu mêlé les pinceaux sur ce que j'avais vu et pas vu, et j'ai découvert ce film. Toujours avec notre cher Joe Shishido, l'homme aux joues, j'ai envie de dire translucides, mais c'est pas le cas, c'est ça qui m'arrive, qui est donc un soldat japonais, ex-soldat japonais, qui surine des militaires américains et qui pille des japonais et qui trouve refuge dans une communauté de prostituées qui vivent d'elles-mêmes et de leur métier, hein. Elles n'ont pas de macro, voilà, elles sont vraiment entre elles, quoi, et elles ont un code d'honneur aussi qui est lié à leur profession et à qui elles sont, et d'une certaine manière j'ai l'impression aussi pour garder leur dignité. Et c'est un film très 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 étonnant, et est-ce que tu peux déjà me dire, toi, ce que tu as ressenti en découvrant ce film?
Eh bien, c'est dans mon top 3, en vrai, il y aurait un peu mélangé La Marque du Tueur et Carmen de Kawashi. Et je pense que le troisième, ça serait vraiment celui-là, La Barrière de la Chair, qui, alors, déjà est en couleur, qui est très pop. Chaque prostituée a une couleur définie, ça c'est mortel. Il y en a une qui est verte, enfin Power Rangers, quoi, verte, jaune, rouge, machin. Et même, il y a des tableaux parfois, il y a des choses, mais sublimes, où c'est juste le fond. Et pareil, c'est toujours très théâtral, et toujours.
Bad painting aussi.
Ouais, mais c'est, non, mais vraiment, le film est magnifique. Le scénario, comme tu l'as dit, voilà, c'est quatre prostituées qui sont théoriquement libres. Moi, ça va être, je le dis tout de suite, moi, c'est ma limite avec le film, dans le sens où, en fait, c'est des meufs qui se disent très libres, très libérées et sans mac, sauf que Joe Shishido arrive et en fait ce loubar va tout de suite, enfin les meufs vont tout de suite en tomber amoureux. Il y a quelque chose de très bizarre et de presque contre-productif par rapport à ce que veut dire le film, j'ai l'impression. Donc voilà, ça c'est, je balance ça comme ça parce que c'est vraiment la vraie limite et où j'ai eu une petite déception. Moi je me suis dit que ça allait être un peu comme Les Proies de Don Siegel. Tu vois, un truc où c'est un militaire qui est blessé et qui va dans une espèce de petit couvent pour jeunes filles, sauf que là, c'est le côté un peu trash. Et ça va avec le fait aussi, je trouve, que le film est... on sent, je vais pas dire qu'il est anti-américain, mais par contre, les Américains en prennent pour leur grade pendant tout le long du film. Et ça montre vraiment comment était Tokyo après la guerre, c'est-à-dire complètement détruite, pauvre, ravagé par la violence, la drogue. C'est assez fou à voir.
Et il y a un côté aussi où les Américains, les seuls Américains qu'on voit, c'est évidemment des militaires, et eux, ils ont toujours la banane, le sourire, ils sont en forme, et autour d'eux, c'est un chaos total. T'as presque l'impression que les mecs, ils sont à Las Vegas en train de rigoler et de passer un bon moment et vouloir coucher avec des prostituées, et puis au milieu de ça... les gens se jettent sur la nourriture, se volent, se pillent entre eux, sont malheureux. Donc oui, bien sûr, il y a une énorme dénonciation à ce niveau-là. Et je suis assez d'accord avec toi sur le... C'est vrai qu'on a des personnages féminins forts dans notre première approche vis-à-vis de ces personnages. C'est assez rafraîchissant d'avoir toutes ces femmes fortes qui ont une personnalité bien définie, etc. Et effectivement, arrive Joe Shishido, il y a une bascule du pouvoir qui est un petit peu décevante. Et d'ailleurs, est-ce que tu as revu Histoire d'une prostituée ou pas? Parce que Histoire du prostitué, c'est vraiment le Suzuki, moi, que j'aimais énormément, hein, que j'ai vu 2-3 fois à l'époque, qui est en fait une reprise des thématiques de Senso, la Palme d'Or de Visconti, donc avec une femme qui tombe amoureuse de deux militaires qui, eux, ont un écart de grade important, hein, un haut gradé et puis un troufion, et un soldat, on va dire, un soldat, quoi. Et je me souviens d'un film très féministe avec un personnage féminin très fort, de cette prostituée qui décide de sa vie, qui se laisse pas mal mener, etc. Mais je pense que je déforme un petit peu la réalité. J'ai pas revu ce film-là, mais je sais que c'est un film important aussi de Suzuki, notamment dans son rapport social sur la prostitution au Japon, etc. Mais j'aimerais bien le revoir avec mon regard de 2026 pour voir ce qu'il en est. Parce que c'est vrai que La barrière de la chair, il y a à la fois ses grandes qualités. Il ne faut pas oublier que c'est un film des années 60, quand même, fait par un Japonais, qui quand même donne beaucoup de place en temps d'écran, etc., à des personnages féminins forts. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'une inversion des pouvoirs qui est pas simple.
Complètement, qui est même trop radical et qui je trouve ne fonctionne pas du tout dans le récit. Et du coup, le scénario patauge un peu dans... En fait, il va dans une autre direction qui, moi, m'intéresse un peu moins, mais par contre, c'est très fort, effectivement, sur le corps social japonais, comme tu disais, avec ces Américains qui, en fait, qui sont là normalement pour défendre, et en fait, il y a une meuf qui se fait violer, et en fait, tu dis, ça nous regarde même pas, ils s'en vont.
Ça commence comme ça.
Ouais, ouais, mais il y a tout aussi un rapport avec cette fille qui devient prostituée, donc du coup, c'est presque le personnage principal, qui en fait est toute timide, et qui n'ose pas au début, et qui en fait va prendre, c'est aussi ça l'histoire, c'est une femme qui va prendre son indépendance par le sexe, par le sexe, tout court.
Et tout le rapport avec le prêtre, il y a des scènes qui sont dingues avec ce prêtre qui se pose des questions sur la prêtrise et son métier. Visuellement, c'est aussi complètement fou, quoi. Et je sais pas si tu te souviens, mais il y a une scène, et moi, ça me fait vraiment dire que Suzuki, en fait, c'est un cinéaste qui essaye tout le temps, mais chacun de ses essais visuels, ils semblent assez mûrs, en fait. Et c'est très étonnant. Il y a une côté maîtrisé dans l'essai qui est très déstabilisant, et il y a une grande scène d'amour dans La barrière de la chair. Et il y a un flair, c'est à la fin du film, il y a un flair lumineux qui entoure les personnages. Et c'est hyper beau. Et en fait, il y a un côté, c'est très expérimental. Et en même temps, c'est évident qu'à ce moment-là dans le film, tu peux faire ça et que ça fonctionne. Donc il y a une précision aussi de l'expérimental. Ça détonne pas, ça détonne jamais. Et ça, je trouve ça très fort chez Suzuki de manière générale dans sa filmographie. C'est qu'il essaye toujours. Mais de fait, ces essais, ils fonctionnent tout le temps. Tu te dis pas, oh là, c'est un peu trop recherché, ça marche pas. Et je trouve que ça mérite de lui tirer le chapeau, quoi. C'est impressionnant. Et dans La barrière de la chair, il y a cette très belle scène d'amour à la fin que vous verrez avec ce flair qui entoure les corps. Ça peut paraître cliché dit comme ça, mais ça l'est jamais. Et c'est complètement à sa place. Et en même temps, c'est un vrai moment de cinéma expérimental.
Ouais, moi j'avoue, moi j'ai adoré certaines séquences aussi pour ça. Moi, il y a vraiment cette scène où justement t'as toutes les prostituées qui parlent du mec, je crois, ou quelque chose comme ça. Et là, je montre en même temps les images de Thomas, c'est pas très, mais ça, je trouve ça magnifique. En fait, elles sont toutes du coup, donc il y en a une qui est en violet, une qui est en vert, une qui est en jaune. Et en fait, le fond est lui-même de cette couleur-là. Et c'est une espèce de petit moment de divagation qui est là. Et il y a une autre séquence aussi, je sais pas si tu vois, c'est t'as une prostituée, celle qui est habillée en rouge, qui rentre dans la baraque. Et en fait, il y a une espèce de poursuite, comme au théâtre, qui la suit partout. Et c'est juste vraiment, rien n'est éclairé, il y a juste la poursuite qui la suit. Donc la poursuite, c'est cette...
La lumière.
Ouais, c'est un énorme spot rond. Je sais pas comment dire autrement, c'est un gros spot rond qui va juste éclairer un personnage et ça va la suivre comme ça et tu te dis mais c'est trop bizarre comme moment et en fait ça montre vraiment ce côté de spatialité en fait à ce moment-là du film, enfin dans cette séquence où la meuf est un peu à la recherche de je sais plus quoi dans la baraque. Il y a des séquences comme ça qui sont encore une fois repris du théâtre, repris de la pop culture,
mais qui marchent ensemble, t'es d'accord? Non,
ouais, complètement, c'est vraiment un très beau film. Et je sais pas pour toi, mais je ferais bien la transition du coup directement avec Carmen de Kawashi, donc qui est sorti en 66 hein, et qui est en fait une relecture tout simplement du Carmen de Bizet, etc. Mais Carmen de Kawashi, donc ça parle d'une femme qui va s'émanciper par les hommes et par le sexe. Et là où on pourrait se dire que Carmen de Kawashi a le même problème, on va dire, masculin que son prédécesseur. Et du coup, Thomas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film?
C'est le premier que j'ai vu en salle parce que, aussi, c'est un événement. Hein. C'est vraiment un film qui était inédit totalement. Quand on découvre un Suzuki, c'est toujours quelque chose, en tout cas pour moi. J'ai adoré déjà, première chose, j'ai adoré le générique. Générique dessiné de cette femme nue. Non mais c'est de la folie en fait, de pouvoir sortir ça. Et d'ailleurs il le refait, c'est dans la barrière de la chair, je crois qu'il y a de nouveau un générique dessiné qui est assez dingue aussi. Donc déjà j'ai adoré le générique, et puis évidemment le personnage féminin hyper intéressant. J'ai aimé ce que ça dit, j'ai vraiment bien aimé ce film-là. J'ai des petites limites quand même sur... l'indépendance financière de cette nana, mais après, bon, voilà, c'est vrai qu'en, c'est important de le recontextualiser, c'est aussi un film, 66, c'est très libre, c'est un super personnage. Je me souviens que moi, j'aime beaucoup quand elle arrive en ville, j'aime moins la première partie à la campagne, que je trouve un peu bizarre. Il y a quelque chose qui m'a gêné dedans, malheureusement, j'arrive pas à mettre le doigt dessus.
Certainement le viol collectif.
Oui, notamment, ça c'est catastrophique de stress, mais oui, non, j'aime beaucoup, non, je sais ce qui m'a gêné, je suis moins sûr de sa relation avec son ex-petit ami en fait, enfin son premier amour, qui revient ensuite et qui lui propose de vivre dans ce bidonville, etc., et je suis moins sûr de tout ça, même si j'aime beaucoup... qu'elle accepte cette direction dans sa vie parce qu'elle l'aime lui et que l'argent n'a pas d'impact sur elle en fait. Et qu'en parallèle, elle abandonne cette vie chez ce styliste-là qui est son pote, blindé de thunes et qui l'héberge. Donc voilà, des choses très fortes, mais je vais plutôt te laisser la parole à toi parce que j'ai moins à en dire. Je pense que j'ai été très chauffé par le film aussi en amont. J'ai entendu tellement de bien sur Carmen de Kawashi que j'ai évidemment passé un bon moment, mais j'ai pas eu le choc par exemple que j'ai eu pour La Marque du Tueur.
Pour être honnête, je dirais que c'est pas le même choc, mais c'est surtout que Carmen de Kawashi, je l'ai vu vraiment juste après la barrière de la chair. Et ce qui m'a vraiment étonné, c'est que là, alors vraiment, donc l'intro, c'est vraiment Carmen. Qui est vraiment toute mignonne, qui est toute naïve, qui est encore vierge et qui va se faire violer par tout un village, en gros, ça donne l'impression. Et ça, cette intro est vraiment très bizarre, parce que c'est ça qui donne le point d'entrée, en fait, vers sa liberté. Donc ça, c'est très étonnant, voire je ne comprends pas totalement, parce que la suite du film, en fait, n'a plus rien à voir, et c'est plutôt comment elle va s'émanciper par le sexe, par l'argent, par le rapport qu'elle a avec les hommes. Mais là où la barrière de la chair, pour moi, il y avait des vrais problèmes où je me dis c'est pas du tout ni féministe ni féminin comme regard. Là, Carmen de Kawashi, moi, j'étais super étonné. Enfin, j'ai été très étonné parce que tout simplement, j'ai l'impression que cette femme, en fait, non, elle ne flotte pas, mais elle a un petit côté presque un peu opportuniste. Et donc, en fait, c'est pas quelque chose qu'elle a prémédité, c'est pas une femme vénale, à aucun moment elle a les clichés de la femme hypersexuelle qui veut de la thune, etc. Au contraire, c'est plutôt les hommes qui sont toujours montrés comme quand même des vieux dégueulasses, comme des gens qui sont obsédés. Et il y a même la séquence qui m'a étonné, c'est quand même il y a une femme qui est lesbienne dans l'histoire. Et qui en fait reprend. Alors là, c'est dans le film qui est comme ça, hein, mais cette lesbienne-là reprend les codes masculins et donc va elle-même devenir un prédateur pour Carmen. Et cette séquence est très intéressante et je trouve que comme ça, c'est jonché de personnages qui sont vraiment très intelligemment faits et qui donnent qui donnent vraiment de la friction en fait avec Carmen. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé en tout cas.
Et Yumiko Nogawa, qui est l'actrice principale du film, est extraordinaire. Elle est solaire, elle est magnifique, ouais, vraiment, elle joue parfaitement bien. Enfin, c'est très impressionnant, et puis c'est l'occasion aussi de découvrir une version japonaise de « Prends garde à toi », le tube absolu de Carmen. Donc rien que pour ça, ça vaut le détour aussi.
Aligre FM 93.1.
Mais c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est toujours assez intéressant de regarder un peu la filmographie d'un auteur, parce qu'on voit un petit peu ses marottes et ce qu'il a envie de dire. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce truc-là chez Suzuki, quand même aussi on va dire, de tiraillement entre le passé et le présent. Il y a toujours quelque chose de... est-ce qu'on reste le Japon un peu ancien, un peu moyenâgeux, ou on rentre dans l'ère moderne ? Et il y a toujours une pointe de... ça, de toute façon, peut-être forcément post-Seconde Guerre mondiale, mais il y a toujours un rapport avec la musique américaine, le cinéma américain, les soldats américains. Là, dans Carmen, effectivement, il y a des scènes de rock-guitare qui montrent littéralement ce qu'est le monde moderne aujourd'hui et comment, en fait... cette musique-là va aussi libérer potentiellement des mœurs. Et on voit ça aussi, du coup, avec donc la barre de la chair, où là, c'est complètement anti-américain. On voit ça dans le film que, potentiellement, j'ai le moins aimé, et je ne sais pas si on va en dire deux mots, mais c'est « Les fleurs et les vagues », qui est un autre film qui se passe, lui, qui est, lui... plutôt médiéval, je ne sais pas à quelle ère ça se passe, mais qui va parler encore du est-ce que le Japon doit rentrer dans l'ère moderne, dans l'ère moderne. Donc il y a comme ça toujours des grands fils de pensée chez Suzuki qui sont, ma foi, très intéressantes à disséquer.
Et tu sais, moi, à qui me renvoie dans cette espèce d'ambivalence aussi de culture américaine mêlée au Japon ? Il me fait penser à, notamment à travers la musique, il me fait penser à Edward Young un petit peu, qui a toujours aussi dans ses grandes fresques une place pour le jazz, la musique pop américaine. Et ça, c'est assez intéressant. Ils sont évidemment extrêmement différents. Hein. C'est pas des cinéastes avec des styles qui se croisent, mais ils ont comme ça une forme d'appréciation dans leur citation de la culture américaine, je trouve. Pas le même traitement de cette culture, pas le même regard dessus, mais c'est assez présent. Les fleurs et les vagues. Les fleurs et les vagues, bah ouais, c'est un film de un peu de Chambara plutôt, hein, de sabre. En tout cas, c'est sur des personnages qui font les duels se passent au sabre et pas au flingue, si tu veux.
Ouais, mais ça reste, pour moi, ça reste un film de Yakuza, mais transposé à l'ère moyenâgeux, quoi.
Oui. Moi, je retiens une chose de ce film. D'abord, je suis d'accord que c'est assez décousu. C'est pas dingue. Il y a des très belles scènes de combat dans les rondins de bois, en courte focale, justement, avec des travelling latéraux, de scènes de bataille. Franchement, très belles. Mais moi, j'avoue, je retiens une chose, c'est le personnage du méchant, que je trouve incroyable. Incroyablement stylisé. Un espèce de Zorro méchant... Dont on dirait qu'il sortirait tout droit d'une bande dessinée. Moi, je retiens ça et je trouve ce personnage très, très intéressant.
Ouais, complètement. Bah, pareil, hein, y a un truc en fait très moderne dans la façon dont l'habiller. Bon, c'est vrai qu'il est un peu habillé Zorro, mais du coup, il y a aussi quelque chose de très ricain, encore une fois, dans ses fringues. Pour la faire courte, peut-être quand même, pour dire, les fleurs et les vagues, c'est deux jeunes gens qui s'enfuient parce que il y en a un qui travaille chez les Yakuza et en fait il est amoureux de cette nana qui va être mariée à un chef Yakuza, sauf que en fait ils s'aiment, donc ils vont s'enfuir ensemble et donc la traque commence pour eux. Et aussi, certainement, le drame de leur relation. Le film est effectivement... pas très intéressant. Je pense que le duel à la fin est superbe, est super beau. Toujours pareil, hein, y a toujours des belles scènes pop, etc. Et même le rapport entre le couple, en fait, qu'on voit quasiment jamais, je trouve, on les voit jamais à l'écran tous les deux. En fait, ils sont toujours séparés. Il y a une espèce de symbolisme dans le film autour de ça que je trouve très joli. Après, le reste, le film est un peu classique. Je trouve que de tout ce qui est sorti là, de tout ce qu'on a pu aussi grignoter, c'est certainement le plus faible de la sélection.
Ouais, je suis assez d'accord. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est classique, je te trouve un peu dur, mais je suis d'accord que... Parce que je trouve que c'est vraiment pas un adjectif qui scie à Suzuki, mais je suis d'accord que c'est peut-être le moins fou.
Le plus classique.
Voilà, le plus classique, c'est vrai. Tu as raison. En tout cas, ce qui ressort de cette conversation, c'est que j'ai envie de revoir Carmen de Kawashi, parce que je sens que je suis passé un peu à côté. J'en ai entendu trop de bien, je pense, et t'en entendre parler, ça me remotive à y aller. Voilà.
Peut-être juste dernier petit mot aussi quand même sur le film. Si ce que je retiens quand même tout petit peu, c'est parce que moi ce qui m'a étonné, c'est le côté politique que j'avais pas forcément vu avant chez Suzuki. Et, Et en fait, on peut voir dans le film, du coup, Les Fleurs et les Vagues, en fait, plein de scènes aussi d'ouvriers qui se mettent en grève. Il y a plein de... Il y a tout un truc sur les... Pas les lobbies du bois ou les lobbies... Je sais même pas dans quoi ils travaillent. Ils font des tranchées, les gars. Je comprends pas tout. Mais en tout cas, il y a quand même un vrai corps social qui est toujours bouillonnant et qui est toujours prêt à à deux doigts de se révolter. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi bien dans les mœurs de Carmen de Kawashi que dans La Barrière de la Chair, avec ces femmes qui veulent aussi être libres. Et là, on a affaire à un yakuza qui se planque et qui fait semblant d'être un travailleur et qui va en fait organiser la grève pour que les gens puissent avoir une meilleure vie. Ce qui, dans un film comme ça d'une heure et demie qui parle normalement d'une histoire d'amour de deux jeunes gens, est assez étonnant.
Seijun Suzuki, c'est un cinéaste à découvrir ou à redécouvrir. Chacun de ses films est traversé de bijoux, de trésors assez extraordinaires. À vous à aller vous balader dans sa filmographie. C'est de nouveau réédité en 4K et en 2K, au moins 9 de ses films, hein, grâce à Carlotta Film. Donc maintenant, vous pouvez vous plonger dans sa filmo. Popcorn et Banjo, la 20e, c'est terminé, mais on se retrouve le mois prochain pour parler de d'autres cinéastes étonnants.
Salut!
Ciao, ciao!
Vous écoutez Aligre FM 93.1.